Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour introduire la lecture du jour dans le livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coast aux éditions Les Ouvrières, je reprends quelques lignes dans la fin de notre dernière lecture, en pages 129 et 130. Voici ce qui nous était dit. « Tu as raison, me dit-il, l'homme est esclave si ses désirs le dominent. Mais si, les accueillant peu à peu, il en devient le maître, alors il peut choisir et décider librement. L'homme ne naît pas libre, il conquiert la liberté. Et comment pourrait-il dire « je t'aime » s'il était forcé d'aimer ? Je me battrai, dis-je, pour me libérer et de moi devenir maître. Tu ne seras pas encore au bout de tes peines, mon petit, car aimer n'est pas en l'homme la possibilité de choisir ce qu'il veut prendre, mais la grave décision de donner ce qu'il veut donner, à qui il veut le donner. Il faut donc quotidiennement lutter pour transformer ton désir de prendre en la volonté de donner et parallèlement d'accueillir ce que l'autre décide de t'offrir. Dieu seul aime parfaitement, mon petit, car il est tout don et tout accueil. Et son don est infini, comme infini son accueil. C'est pour cela qu'il n'est pas seulement celui qui aime plus que tout, mais qu'il est l'amour. Mais nous ne sommes pas Dieu, seulement image de Dieu. Et nous devons de nous, peu à peu, dégager cette image. Ainsi, le sculpteur, de la pierre brute fait surgir la statue qui l'habite et qui l'attendait pour naître. Ami, dis-je, c'est donc en aimant authentiquement les autres que je deviendrai moi-même. Oui, mon petit, mais c'est aussi en aidant les autres à aimer, car tu es membre d'un grand corps qui grandit avec toi. C'est pour cela que je t'ai dit, dès notre première rencontre, engage-toi au service de tes frères. L'aurais-tu déjà oublié? Chapitre 22. Je n'avais rien oublié. Apprendre à aimer une fille, c'était apprendre à aimer tous mes frères. Le sage, une fois de plus, m'avait renvoyé vers les autres. Mais moi, je pensais à une autre seulement. Je la cherchais, je l'attendais, j'avais peur de rater la rencontre. Car si je commençais de croire que pour toujours unir dans l'amour sa vie et la vie d'une fille était chose possible, j'étais sûre maintenant que c'était en effet aventure magnifique, mais ô combien difficile. Et pourtant, tout à coup, je pensais, n'est-ce pas folie de l'homme aujourd'hui de rêver de bâtir un monde de justice et de paix, alors qu'il semble de moins en moins capable de bâtir son propre foyer? De comprendre cela renouvela mon ardeur, car je voulais servir. Et au sage, ce jour-là, je posai brusquement ma question. « Ami, comment puis-je faire pour me préparer à aimer une fille ?»« En aimant tes frères, je te l'ai dit, puis en pensant à elle et en l'aimant déjà. Mais comment puis-je l'aimer puisque je ne la connais pas? La mère ne connaît pas son enfant, mais elle le porte déjà. » Il poursuivit, ce qui est vrai pour un enfant est vrai pour ton amour. Elle, de son côté, se prépare, je l'espère pour toi, et votre vie d'aujourd'hui est déjà votre vie de demain. Crois-tu qu'en un instant tu aimeras quand tu diras « je t'aime » C'est chaque jour que naît ton amour pour elle. Chaque jour, il grandit. Tu ne lui offriras que les fruits de ton arbre. Pense à elle, mon petit. Vis pour elle, mais je te le répète encore, en vivant pour tes frères. pense aussi à ses sœurs, les jeunes filles de ton chemin. Tu fais route avec elles. C'est un merveilleux voyage que vous faites ensemble. Vous ne le referez pas. Vous pouvez vous connaître, vous estimer, vous aimer et vous préparer les uns les autres pour vos durs et beaux voyages de demain. Mais vous pouvez aussi vous blesser et grandement vous affaiblir, insouciant et avide, en jouant ensemble à l'amour avant même de savoir aimer. Va vers elle et parle. Ô fille jolie de mes voyages gris, je vous le dis, j'ai grand besoin de vous, pour que naisse de moi, étonnée, l'homme que vous désirez. Car pour moi, vous pouvez être mère avant que d'être épouse en me donnant la vie que je vous redonnerai. Ô fille jolie de mes voyages gris, connaissez-vous votre pouvoir? Vous qui passez, innocentes ou perverses sur mes routes quotidiennes, senteurs de printemps sous mes fenêtres closes, enivrante musique, pressantes invitations au bal du bonheur, fruits dorés pour ma bouche asséchée, source rafraîchissante pour mes lèvres nocturnes, soleil levant, caresse de rayons tendres pour mon cœur et qui frissonne, corps souple, vagues ondulantes, écume de vos cheveux pour m'y plonger avide. Ô fille jolie de mes voyages gris, vous m'éveillez brutales et matinales de mon sommeil d'hiver. Vous me forcez à sortir de chez moi, chambre close pour mon confort si bien aménagé. Vous déliez prestement mes doigts neufs d'enfant. Vous ouvrez mes yeux, les détournez de moi et vous m'entraînez, ô fille d'Ève, à pas irrésistible, vers un lointain et mystérieux ailleurs où vous possédez, dites-vous, un trésor inviolé. Ô fille jolie de mes voyages gris, dites-moi donc, quel est votre secret? Où me conduisez-vous? Que me donnerez-vous? Vous pouvez, arrachant les fleurs de vos prés, me les tendre de loin pour me faire marcher, m'obliger à courir. Vous pouvez m'attirer sur vos champs de pâture, loin de ma maison natale et de mes vieux parents. Car vous savez, n'est-ce pas, trop savante dompteuse, que pour vous suivre, je franchirai d'un bond les plus hautes clôtures et sans crainte de me déchirer au barbelé des champs, sans écouter les soupirs d'une mère trop inquiète, piétinant les terres de mes belles idées, celles de mes décisions et mes résolutions, arrachant un à un mes vêtements du dimanche, propres et repassés, je courrai, je volerai, nu pour vous saisir enfin, vous coucher dans les blés verts, en écrasant le grain qui attendait le pain. Ô fille jolie de mes voyages gris, qu'avez-vous fait de moi? Vous le saviez pourtant quand mon cœur sauvage, les herbes folles y poussent étouffant l'herbe sage. Car de mon jardin secret, hélas, je suis trop souvent un mauvais jardinier. Vous saviez que le bois mort s'entassait chaque jour dans ma besace trop lourde de pèlerins égarés? Mais parce que vous désiriez la chaleur du brasier et la lumière un instant de la flamme allumée, vous avez d'une étincelle folle à mes mirages mis le feu en incendiant mes rêves. Ô fille jolie de mes voyages gris, que reste-t-il du foyer allumé? Quelques branches calcinées qui plus jamais ne porteront de fruits, un goût de cendre noire en nos bouches refroidies, et vous avez brûlé vos ailes, papillons d'un été, qui si vite et si haut pouvait vous entraîner, tandis que de moi, vous n'avez eu qu'un cri, et non pas ma chanson. Ô fille jolie de mes voyages gris, j'avais besoin de vous, non de vos dons de pyromane dangereuses allumeuses de mes soirs d'été, mais de votre infinie douceur, rosée bienfaisante au matin de mes rudes journées. J'avais besoin de votre source pure pour arroser mon arbre et non de vos tempêtes pour en casser les branches. J'avais besoin de la lumière qui distille vos yeux pour effacer les ombres qui me cachent le jour. J'avais besoin, je l'avoue, que vous me disiez non quand de toutes mes forces je recherchais le oui. J'avais besoin d'un non, qu'il ne soit pauvre non timide et farouché, ni d'un non de dégoût, ni d'un non triste mine, mais d'un non souriant, rafraîchissant comme une brise qui me donne tout bas l'envie, car tout haut, je ne saurais l'avouer tant je suis orgueilleux, qui me donne l'envie de vous respecter, fille jolie, envie de croire que l'amour est une trop belle fleur pour qu'elle soit piétinée, quand pour notre plaisir seul on tente de l'arracher. Ô Jésus, mon Dieu, toi qui as su si fort aimer, aujourd'hui je te confie les filles jolies de mes voyages gris. Accompagne-les sur leur route, et quand nos chemins se croiseront, aide-les à nous donner, garçons, ce que plus que tout autre elles peuvent nous donner. L'envie de sortir de chez nous plutôt que de nous enfermer, l'envie de nous oublier plutôt que de penser à nous, l'envie de nous dépasser plutôt que de stagner, l'envie de donner plutôt que de toujours chercher à prendre, parce que vous êtes jolie fille de nos voyages gris et que vous pouvez nous apprendre à aimer. Chapitre 23. Et pour elle, vous ne m'avez pas encore dit, ami, comment penser à elle et prier pour elle? Le sage ne répondit rien. Je ne comprenais pas pourquoi il s'entêtait à laisser ma question sans réponse. Il me parlait des autres, puis des filles de mon chemin, mais elle, celle que j'attendais, ne m'avait-il pas dit qu'il fallait déjà y penser? Il réfléchissait, paraissait hésiter. Brusquement, il se leva. Je le suivis des yeux. Il se dirigea vers une grande armoire que j'avais souvent regardée, car je la trouvais belle. Merveilleusement sculptée, elle me parlait du travail des artisans anciens. « C'est l'armoire de mes arrière-grands-parents, » me dit le sage avec une pointe de fierté. Il ouvrit, chercha quelques instants et revint vers moi, portant avec précaution une espèce de coffre de bois qui me parut lui aussi daté d'un très bel âge. Il en sortit une liasse de papier et dénoua soigneusement le cordon qui les retenait prisonniers. Tout en cherchant une feuille, il me dit « J'ai moi aussi longtemps peiné avant de découvrir une route. Je me suis heurté aux obstacles des chemins sans issue et… » Il hésitait encore et c'est presque tout bas qu'il termina sa phrase. « Moi aussi, j'ai souvent blessé les autres en me blessant moi-même. C'est pour cela que je crois te comprendre et que je voudrais tant t'aider. » Puis il soupira et dit encore « En aimant mal, nous nous faisons beaucoup de mal les uns aux autres. » Il y eut un silence. Le temps pour moi de me réjouir de cet aveu du sage. Non pas parce que je triomphais de découvrir que lui aussi avait été faible et peut-être le demeurait, mais de trouver enfin une réponse à mes lancinantes et tenaces objections, lorsque, l'entendant parler si bien de l'amour, je me disais, sans oser le lui dire, « S'il savait ce que c'est de chercher, de tomber, il ne parlerait pas comme il parle. » Ainsi, il savait. Et ses paroles brusquement prenaient une valeur étrange. C'est qu'elles étaient riches de vie. Mon ami avait soigneusement refermé le coffre. Il tenait maintenant en ses mains une feuille pliée. Il ouvrit et je m'attendais à ce qu'il lût tout haut le texte qu'il paraissait parcourir des yeux. Mais brusquement, il replia la feuille et me la tendit. Je vis qu'il était ému. « Va, mon petit, dit-il, prends-la. » J'hésitais, subitement timide, car je sentais que le sage m'introduisait ainsi dans son intimité. « Prends, dit-il encore, moi aussi j'ai eu peur de rater la rencontre. Et c'est un soir de lutte que pour elle, j'écrivis ces quelques lignes pour m'aider à prier. Ce sont mes mots, je te les prête, je te les donne, mais oublie-les très vite pour y mettre les tiens. Ainsi, celui qui sait entonne la chanson pour que l'autre, hésitant, puisse continuer la sienne. Il était tard, mais en rentrant, je lus le poème. Ô mon bel amour inconnu, tu respires et tu vis, quelque part loin de moi, peut-être près de moi, mais des traits de ton visage, je ne connais la grâce, et des doigts et des fils qui ont tissé ta vie, je ne saurais rien, tant que de toi je n'apprendrai la trame et les nœuds qui en ont fait la toile. Ô mon bel amour inconnu, je voudrais que ce soir tu penses à moi comme je pense à toi, non en un rêve doré qui ne serait pas moi, mais dont la longue nuit acceptée de ton cœur impatient, car j'existe moi aussi, et je suis vrai, et tu ne peux m'en vanter sans me défigurer. Ô mon bel amour inconnu, je t'aime sans visage pour toi, de toute ma force maintenant, je veux m'enrichir pour pouvoir t'enrichir. Et sans cesse, je m'entraînerai à donner en évitant de prendre. Car lorsque tu paraîtras attirante à mes yeux, je ne veux pas te ravir comme un voleur qui vient, mais t'accueillir comme un trésor offert. Car le trésor sera toi et tu te donneras. Ô mon bel amour inconnu, me pardonneras-tu demain quand contre moi confiante, tu te tiendras blottie? Quand ton regard naviguera dans le ciel de mes yeux, y visitant un à un les plus lointains nuages, me pardonneras-tu d'être celui qui trop connaît, hélas, les gestes de l'amour, moi qui les ai appris avec d'autres que toi, et qui pour toi aujourd'hui voudrais tant désapprendre, car je sais maintenant comme il serait beau que nous cherchions et nous trouvions ensemble les accords justes et riches qui de nos vies accompagneront les chants de joie comme les chants de peine. Ô mon bel amour inconnu, ce soir je prie pour toi, parce que tu existes et que pour toi déjà je veux être fidèle, parce que tu peines toi aussi et peut-être pour moi. Je me prépare, tu te prépares, et demain de toutes mes forces, je le souhaite, je serai ton soleil, et tu seras ma source, je te réchaufferai, et tu m'abreuveras. Nous grefferons nos corps pour une vie nouvelle, et nous donnerons au monde ce dont il a besoin, le poids de notre amour, qui sans nous lui manquerait. Mais, mon bel amour inconnu, il faut attendre encore. Et combien douloureuse est l'attente de nuit des amants sans visage. Mais je sais que nos deux vies se cherchent et s'appellent, et je suis sûre maintenant qu'au creux de nos désirs nocturnes chante la lumière, le désir de Dieu. Notre Père qui es aux cieux nous regarde, mon amour, et de toute éternité, je le crois, nous aime en murmurant. S'ils le veulent demain, ils ne feront plus qu'un. C'est mon rêve, c'est son rêve de père, ce sera notre décision de fils. J'étais profondément émue et je comprenais l'émotion de mon ami. La prière était très belle, mais j'hésitais encore à la faire mienne. Étais-je assez intime du sage pour me permettre ainsi de revêtir les vêtements de son cœur? Je ne connaissais rien de lui. Avait-il rencontré l'inconnu de sa prière? Avait-il vécu un bel amour? Me poser ces questions me paraissait presque indiscret. À quoi bon, d'ailleurs, puisque j'avais décidé de respecter son mystère? J'attendrai.
Thank you.
Chapitre 24. José maintenant, c'était une victoire, parler avec mes amis de mes recherches et de mon aventure. J'avais eu beaucoup de mal, car lorsque nous étions ensemble, nous cherchions surtout à nous distraire follement. Nous n'y parvenions guère et cultivions l'ennui. Quand quelquefois nous nous lancions dans de grandes discussions, c'était pour parler des autres, de la société, des événements, du monde, mais rarement de nous et de nos questions d'hommes. En fait, nous cheminions solitaires, nous saoulant du bruit de nos rires et de nos mots. Un jour, à des filles, je tentai de dire ce que j'attendais d'elles, ce qu'elles pouvaient m'offrir, ce qu'elles pouvaient en moi détruire. J'avais médité les paroles de mon amie. Elles exprimaient parfaitement ce que je vivais et ce que je ressentais. La réaction fut violente. Non seulement mes amies se défendirent, mais elles m'attaquèrent en fustigeant les garçons. « Vous nous chargez, disaient-elles, de tous les péchés du monde, c'est facile. Or c'est nous, trop souvent, qui sommes vos victimes. Vous vous attribuez tous les droits. » Et il nous faut sans cesse nous défendre de vous, dominateurs orgueilleux, qui nous voulez pour votre seul plaisir. À mon tour, je me défendis. Mal, j'étais seule et ne sus pas leur exprimer le fond de ma pensée. Elle était encore trop neuve, je ne l'avais pas assimilée, et une certaine pudeur paralysait mes mots. Était-ce entre nous une simple querelle d'adolescents attardés? Peut-être dans la forme, mais non pas dans le fond. Je battis en retraite, car je pensais que ces filles avaient raison de se plaindre. Mon expérience, hélas, confirmait mon jugement. Quelque peu désemparée, j'en parlai à mon ami. Il me dit: « Nous ne pouvons pas tout exprimer en même temps, mon petit. La réalité est un diamant à plusieurs facettes. Considérer l'une d'elles n'est pas oublier les autres. Tes amis ont raison. » J'ai dit: « Il est vrai que les jeunes filles ont un grand pouvoir sur vous, jeunes gens. Mais vous avez, vous aussi, un grand pouvoir sur elles. Vous êtes faits les uns pour les autres et vous vous faites les uns par les autres. L'humanité boiterait si une partie d'elle-même se dérobait, et la société se construit de travers quand l'homme et la femme ne sont pas reconnus dans leur égale dignité. Ils doivent se rencontrer, ils sont complémentaires, mais aucune vie ne peut jaillir saine s'ils ne sont pas également respectés. Jeunes, le monde que nous vous avons fait trop souvent vous dessert, il devrait vous aider. Celui que vous ferez, je l'espère, épanouira vos fils, mais il ne trouvera pas son équilibre et sa fécondité si vous-même, entre vous, vous ne trouvez la vôtre, les vôtres. Ce sont les différentes faces du diamant. Aujourd'hui, mon petit, puisque ton cœur t'y invite, écoute les filles jolies de tes voyages gris. Ironiques et tendres, elles ont beaucoup à te dire et d'elles tu as beaucoup à retenir. Et que me disent-elles? Écoute-les, te dis-je. Garçon, tu le sais, au bois d'amour derrière chez nous, tu es souvent habile braconnier et plus d'une fille s'est laissée prendre au collet de tes bras. Mais quand, devant tes amis ébahis, tu exhibes triomphant tes beaux tableaux de chasse, sache que tu m'écœures, car pour ton bon plaisir, je ne suis pas gibier, et tu me forces à croire que vous êtes souvent, petits garçons, que de tristes chasseurs de filles. Je sais que tu es fort quand tu veux t'emparer de celle que tu désires, sans même réfléchir que, la prenant pour toi, elle qui te suit du bout des lèvres, du bout du cœur, tu la voles à un autre qui pourrait être ton ami et qui, sans même le connaître, rêve que pour lui elle se réserve rose sur le rosier et non fleur cueillie. Tu sais de mon cœur combien le bois est tendre comme celui des jeunes arbres au printemps qui s'annonce. Mais pour t'amuser, tu graves ton nom près du mien sur ma fragile écorce, en ignorant que le couteau pénètre, plus que tu ne le penses, faisant couler la sève de mon cœur blessé. Garçon, de toi souvent je dois prestement me défendre et quelquefois regagner ma tour en fermant à la hâte mes ponts-levis baissés, car j'ai peur de tes gestes et plus encore de tes mots. Ils peuvent le temps d'une soirée combler les plus profonds fossés et te permettre de me rejoindre là où je ne voulais pas te rencontrer. Tu me dis qu'il faut bien s'amuser, jouir et se réjouir, mais l'amour n'est pas jeu. Je ne suis pas ton jouet et tu n'es pas le mien. Et si je crois que le plaisir n'est pas fruit défendu, je sais que le fruit doit être mûr avant d'être cueilli et qu'il ne faut pas voler dans les vergers d'autrui, même si l'ami complice m'y introduit de nuit. Tu me dis, on le dit, qu'il faut tout essayer, que l'amour s'apprend et qu'il faut s'entraîner. Mais il n'est pas vrai que les filles sont chaussures pour tes pieds, que tu peux essayer une à une en riant avant de trouver la ligne qui te plaît et la juste pointure. Et mon corps garçon n'est pas davantage blanche touche de piano où tu peux t'exercer à en monter les gammes pour jouer plus tard avec un autre le récital de ta vie. Tu me dis qu'ouvrir les portes de mes chambres secrètes est la plus grande preuve d'amour que je puisse donner. Tu as raison, mon ami. Alors très haut, tu déclares que tu m'aimes et jures que c'est vrai. Demande que je t'aime et réclame les clés. Mais si tu m'aimais, vois-tu, tu me tendrais la main, une main bien sage qui doucement me caresserait tout en cherchant la mienne, et je te la donnerais. Nous marcherions ensemble et nos lèvres disponibles échangeraient nos mots. Nous parlerions de toi, de moi, des autres et de l'immense monde. Émerveillés, nous visiterions le pays de nos vies et nous déshabillerions patiemment nos deux cœurs de tous leurs déguisements. Bien avant qu'un jour peut-être, nous étant reconnus, nous décidions ensemble d'unir nos deux vies. Alors, l'ayant dit devant Dieu et puis tous nos amis, nous pourrions enfin déshabiller nos corps pour ensemble ne faire qu'un et nous donner la joie. Et leur donner l'enfant. Ce serait beau, tu sais. Mais tu me dis, garçon, tu me dis beaucoup de choses, et tu perds ton temps, car les autres le disent. Tu ferais mieux, vois-tu, de m'avouer simplement, j'ai grande envie de toi, parce que mon cœur a soif dans mon corps qui a faim. Et je comprendrai, garçon, car moi aussi souvent j'ai envie que tu viennes, et certains soirs de brouillards ou d'orage, mes barrières entr'ouvertes, je te guette, je t'attends. Et tu pourrais chez moi pénétrer, y butiner ton miel, sans qu'en mon cœur je trouve assez d'amour pour me donner la force de te repousser. Tu connais pourtant mon rêve, mon secret, mes difficiles luttes. Les doigts de la nature, ce n'est pas un hasard, ont scellé en mon corps la porte de la vie. Et je voudrais, tu le sais, d'autres en sourient, pas moi je te le dis, que celui qui le premier en franchira le seuil soit l'élu de mon cœur, mon époux de toujours, mon seul laboureur et mon seul semeur. Et quand, ayant mûri de nos amours d'été, notre fruit, notre enfant, voudra quitter son arbre et déserter son nid, caché sous mes ombrages, je veux que, petit prince, il puisse emprunter par sa venue au monde une voix royale qui soit digne de lui. Oh, dis-moi, mon garçon, mon ami, tu me comprends, n'est-ce pas? Mais puisque je ne suis pas plus forte qu'une autre, je le sais, tu le sais, j'ai grand besoin de toi, autant que tu me dis avoir besoin de moi. J'ai besoin de te regarder, de pouvoir t'admirer, découvrant émerveillé tes richesses cachées. Mais j'ai besoin aussi que, chercheur patient, tu détectes les miennes, car j'ai peur souvent que ma dot soit trop maigre et ne puisse enrichir le garçon qui m'aimera. J'ai besoin que tu me dises tes pensées, tes sentiments, tes projets, pour que, sans crainte, je puisse partager les miens, car je sais que les âmes secrètes ne pourront pas aimer. J'ai besoin de découvrir ta force pour comprendre que ma douceur n'est pas une faiblesse. J'ai besoin de te voir debout et sachant marcher seule, sans que les filles naïves trop souvent te servent de béquilles. J'ai besoin de t'entrevoir émue pour croire que mon cœur bat et si à tes yeux une larme paraît que tu n'as pu retenir, j'ai besoin que tu la laisses briller sans te croire ridicule, car pour moi cette larme est une perle rare, car j'ignorais que tu puisses être l'écrin. J'ai besoin de te voir combattre pour tes frères et défendre leur bonheur, pour apprendre que demain tu sauras lutter pour ton amour et pour tes fils. J'ai besoin que tu me regardes pour savoir que j'existe. J'ai besoin que tu me recherches et choisisses quelquefois d'être à côté de moi pour ne pas me croire, hélas, triste fille de l'ennui. J'ai besoin que tu m'invites à danser pour savoir que mon corps est souple, roseau de tiges vertes et vivantes, et non bois sec qu'on évite ou rejette. J'ai besoin, je te l'ai dit, d'apprendre joyeusement la chaleur de ta main dans ma main et le poids de ton bras posé sur mon épaule pour savoir que les bras des garçons ne sont pas pièges tendus pour lâchement nous capturer. J'ai besoin, enfin, garçon, de votre amitié, comme vous avez besoin de la nôtre. Mais je n'ai pas besoin, oh non, que les uns après les autres, vous me disiez « je t'aime ». Car lorsque viendra mon amour, que j'attends, et qu'enfin il me le murmurera, j'aurai alors du mal à croire que c'est vrai. Le sage se tut. Et je pensais qu'il avait achevé de parler. Mais après un long silence, il ajouta « L'amitié, après l'amour, est le plus beau cadeau du ciel. Heureux qui peut en vivre. Garçon, vous êtes envoyé aux jeunes filles et jeunes filles aux garçons pour que dans l'amitié, vous vous disiez les uns aux autres quelque chose de la délicatesse et de la tendresse de Dieu. C'est ainsi que vous apprendrez à aimer. » Je me levai, j'allais me retirer. C'est à ce moment-là que l'enfant parut. Il était entré sans bruit, se faufilant derrière le sage, sans même que je l'aperçoive. Il me regarda malicieusement et me fit signe de me taire. Le sage n'était pas dupe. Il souriait, mais ne bougeait pas. L'enfant prestement appliqua ses deux mains sur les yeux de mon ami. Celui-ci attendit un moment, faisant semblant de chercher quel était son mystérieux agresseur, et s'exclama soudain comme s'il avait enfin trouvé « C'est mon petit ange blond !» L'ange blond, qui n'avait rien de blond, éclata de rire. Alors, se haussant sur la pointe des pieds, il passa sa tête par-dessus l'épaule du sage et l'embrassa très fort. Puis il sortit sans rien dire, comme il était entré. Le sage souriait encore, visiblement heureux. Il me regardait et s'amusait de mon étonnement, mais il ne dit rien et je ne demandai rien. Dehors, j'aperçus de loin l'enfant. Il tournait au coin de la rue. Chapitre 25. Je la rencontrerai. J'en étais sûre. Quand je pensais à elle, je m'envolais très haut sur les ailes du rêve et mon ciel était pur sans l'ombre d'un nuage, puisque c'était beau, ce serait beau pour moi. Mais brusquement, imprévisible, se levait le vent violent du doute. Je me retrouvais à terre. Je ne voyais alors que les obstacles. Je l'ai dit, j'avais devant les yeux tant et tant d'exemples qui contredisaient mes rêves. Et puis mes camarades me démontraient sans cesse que c'était folie de croire à l'amour, du moins comme j'y croyais maintenant. Lorsque je discutais avec eux, je trouvais certes de plus en plus d'arguments à leur opposer. Le sage m'en fournissait. Mais est-ce que je ne tentais pas de me persuader moi-même en voulant les persuader? Je ne doutais plus que ce fût beau, mais je doutais que ce fût possible. Révéler au sage le fond de ma pensée me gênait de moins en moins, car il ne s'étonnait jamais de ce que je pouvais lui dire. Je ne m'en privais pas. Quelquefois même, dépassant ma pensée, je le provoquais. C'est que je cherchais à exorciser mes doutes. J'avais envie qu'il me convainque. « Ami, lui dis-je ce jour-là, lorsque garçons et filles, nous sommes amoureux, est-ce vraiment raisonnable de nous engager pour une vie entière ?»« Oui, dit-il, si vous êtes raisonnable. » « Et quand ne sommes-nous pas raisonnables ?» Il répondit « Lorsque quelqu'un se tient debout devant le soleil, nul ne peut découvrir les traits de son visage, mais seulement une forme sombre irradiée de lumière. Ainsi, si vous ne vous regardez l'un l'autre qu'à la seule clarté de votre sensibilité, vous n'apercevrez de vous qu'une ombre vague mais dorée. Ce n'est pas très raisonnable. » Si un bel inconnu frappe très fort à la porte de votre cœur et que vous lui dites « Entrez chez moi » sans prendre la peine de sortir de chez vous et de faire connaissance, ce n'est pas très raisonnable. Si lui est prince et elle bergère et que vous dites « Entre les amoureux, nulle différence ne subsiste, seuls les préjugés dressent devant eux des barrières, ce n'est pas très raisonnable. » Si vous usez toutes vos minutes et vos heures à vous dire « je t'aime » et découvrir le goût de votre bouche en n'ayant plus de temps à dépenser pour vous dire qui vous êtes, ce que vous faites et quelle route vous souhaitez prendre, ce n'est pas très raisonnable. Si vous pesez, mesurez et calculez déjà ce que vous vous donnez l'un à l'autre et que faisant vos comptes, vous vous disputez parce que vous pensez qu'ils ne sont pas justes, l'un donnant moins tandis que l'autre donne plus, ce n'est pas très raisonnable. Si l'un et l'autre vous vous grimez, vous parez de déguisement pour jouer afin de plaire les personnages que vous aimez, ce n'est pas très raisonnable. Si vos idées et vos convictions divergent en tout et que vous pensez l'un et l'autre, je le convaincrai et le convertirai, ce n'est pas très raisonnable. Si vous dites « Essayons de nos corps l'harmonie et vérifions s'ils sont aptes au plaisir en oubliant que vos corps sont interchangeables et qu'ils peuvent solder ces plaisirs d'occasion sans offrir de l'amour », ce n'est pas très raisonnable. Si vos parents et tous vos vrais amis vous disent « Nous pensons que vous faites fausse route » et que leur criant « Qu'importe, nous nous aimons !» vous lâchez leurs mains et vous partez seul en rompant vos amarres, ce n'est pas très raisonnable. Si chacun de votre côté vous abandonne et inachevé la construction de votre mur en disant « Nous posons maintenant le toit de notre maison », ce n'est pas très raisonnable. Si, si, mais pourquoi parler encore? Tu sais bien ce qui n'est pas raisonnable. Les amoureux le savent aussi quand il s'agit des autres. Mais quand vient leur tour d'aimer, beaucoup ne veulent plus savoir, et ce n'est pas très raisonnable. Un grand amour, vois-tu, mon petit, lorsqu'il n'est pas authentique, fait souvent perdre la tête. Et c'est folie de vouloir aimer sans sa tête, ajouta le sage en souriant. Je n'avais pas envie de rire. J'étais même un peu agacée en écoutant mon ami énumérer de si nombreuses exigences. Quand on est jeune et qu'on est amoureux, a-t-on envie d'être raisonnable ? Je répliquai un peu sèchement. « Si c'est ainsi, ami, on ne peut faire que des mariages de raison. »« Non, répliqua le sage calmement et sans se départir de son sourire. Ni un mariage de raison, ni un mariage d'amour, mais un mariage d'amour raisonnable. » Je pris le parti de sourire à mon tour et dis « Décidément, vous avez toujours raison !» Petit à petit, les échanges entre le jeune et le sage se font plus précis, plus personnels. Des confidences, des questions que le jeune de maintenant peut dire, des secrets de découverts, Le sage lui-même a eu son lot de problèmes, de difficultés, même s'il ne les étale pas clairement. Nous continuerons cette lecture car le jeune homme, à travers les paroles du sage, proposera des étapes pour avancer. Et nous en avons déjà entendu et nous en trouverons encore d'autres dans votre prochaine lecture. N'oubliez pas, l'émission « Je lis pour vous » en direct sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, mardi et mercredi en direct à 21h30. Rediffusion lundi et mardi à 6h ou en podcast sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. N'hésitez pas à écouter aussi l'émission « La brève de Je lis pour vous » le samedi à 7h45. À bientôt, chers auditeurs.